Henri Pacchioni, bon père ou amant meurtrier? Narration, Florent Houllier. Jusqu'où l'amour d'un père pour sa fille peut-il conduire? Au mensonge? À la violence physique? Au meurtre? Et à la dissimulation d'un corps? Dans toute l'histoire des affaires criminelles françaises, celle de Henri Pacchioni est presque un cas d'école. Cet homme a aussi bien le don d'attiser les foudres que d'attendrir les foules. Aventurier dans l'âme, séducteur, son cœur ne bat que pour sa fille Émilie. Henri Pacchioni a su convaincre les forces de l'ordre de le laisser tranquille alors qu'il était en cavale. Pendant 5 ans, il a parcouru des milliers de kilomètres avec sa fille Émilie, atteinte d'un handicap mental, pour fuir une justice qui voulait le condamner pour le meurtre de sa conjointe, Michèle Moriamé. Mais est-il vraiment coupable? Tout commence par une inquiétante disparition. Nous sommes à Marignane, une commune proche de Marseille, aussi réputée pour son aéroport que pour sa vie paisible. Il y fait beau presque toute l'année. Le 29 mai 1989, le commissariat reçoit un appel de la mère de Michèle Moriamé. Cette femme confie son inquiétude de ne pas avoir de nouvelles de sa fille depuis près de 2 mois. Une situation parfaitement anormale puisque mère et fille ont l'habitude de s'appeler au moins 2 fois par semaine. La dernière fois qu'elle l'a eue au téléphone, c'était le 31 mars. Elle demande avec insistance à ce que des gendarmes se rendent au domicile de sa fille. Une patrouille est envoyée sur place. Lorsque l'on toque à la porte, personne ne répond. Les gendarmes s'apprêtent à repartir lorsqu'arrive un homme âgé de la quarantaine. L'allure assurée, l'homme salue les policiers. L'inconnu décline son identité, Henri Pacchioni. L'homme déclare vivre ici avec Michèle. Il fait entrer les policiers, leur propose un café et leur demande de ne pas parler trop fort car sa fille Émilie est en train de dormir. Les policiers s'assoient. Ils ne trouvent rien de suspect chez cet homme, mais posent tout de même leurs questions de routine, à commencer par sa relation avec la disparue. La première réponse d'Henri est très surprenante. Il dit que Michèle n'est pas sa compagne, encore moins son épouse. Elle est simplement la mère de sa fille. Lorsqu'il évoque celle avec qui il partage les frais au quotidien, il est détaché. Si un jour il y avait eu de l'amour entre eux, aujourd'hui il s'est volatilisé. L'absence de Michèle n'étonne pas Henri. S'il n'a pas signalé sa disparition à la police, c'est simplement parce qu'il a l'habitude de se faire tromper, d'être cocu, comme on dit familièrement. La jeune femme a l'habitude d'aller voir d'autres hommes. Il lui arrive souvent de s'absenter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon Henri Pacchioni. Il dit que le jour où l'amant de sa compagne en aura marre d'elle, elle rentrera à la maison, comme elle finit par le faire à chaque fois d'après lui. Sa légèreté apparente ne convainc pas, il y a quelque chose de louche. Lorsque les policiers inspectent un peu plus le logement, ils sont interpellés par un curieux détail. Dans la chambre du couple, il n'y a plus de lit. Henri est incapable de fournir une explication claire. Il dit simplement que le lit était abîmé et qu'il s'en est débarrassé. De toute façon, il a pris l'habitude de dormir sur le canapé et parfois chez sa mère. Officiellement, le couple est séparé. Henri garde un double des clés de l'appartement pour s'occuper de sa fille. C'est la prunelle de ses yeux. Il refuse de l'abandonner, la petite Émilie, très handicapée. D'ailleurs, en pleine conversation, le bon père s'interrompt pour se précipiter dans la chambre de sa fille. Émilie vient de faire une crise. Les gendarmes savent qu'ils en ont fini avec lui pour l'instant. Il rentre au commissariat avec la fervente intention de s'intéresser à la vie de ce couple, aux mœurs bien étranges. Une question leur trotte dans la tête. Henri aurait-il pu tuer Michèle par jalousie? Nous sommes en 1982. Henri vient de rentrer à Marseille pour quelques jours de repos après une longue mission en mer. À l'époque, il est âgé de 40 ans. Lui, qui a l'habitude d'être un baroudeur, sans port d'attache, commence à changer de projet de vie lorsqu'il croise le regard de la douce Michèle. C'est encore une très jeune femme d'à peine 23 ans qui travaille en tant que secrétaire. Une longue et merveilleuse histoire commence. Henri et Michèle sont fous amoureux l'un de l'autre. Les longues séparations se font de plus en plus difficiles, compte tenu du métier d'Henri, mais le couple garde le cap. 2 ans plus tard, Michel annonce à Henri qu'elle attend un enfant de lui. C'est une petite fille, le couple décide de l'appeler Émilie. Ce n'est pas le premier enfant d'Henri. Par le passé, il a été marié avec une certaine Marité, avec laquelle il a eu 3 enfants. La séparation s'est bien passée. En revanche, pour Michel, les choses deviennent bien plus compliquées que ça. Elle a du mal à s'habituer à son nouveau rôle de mère. Son caractère un peu volage et sa volonté de profiter de la vie lui compliquent la tâche. Quant à Henri, son métier n'arrange pas la situation. Il est plongeur chez Comex, une société spécialisée dans l'ingénierie et le monde sous-marin. Il est envoyé en mission aux 4 coins du globe. Henri s'absente durant de longues périodes. Michel doit s'occuper seul de sa fille, aidé de temps en temps par sa mère. À partir de l'année 1985, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Le comportement d'Émilie est instable. La petite fait de nombreuses crises et ne parle toujours pas. Les médecins la déclarent autiste. Michel a du mal à supporter la situation, à l'inverse d'Henri, qui considère sa fille comme une enfant normale, méritant toute l'attention du monde. Quelques jours après la visite, Henri est convoqué au commissariat. À la demande des policiers, il dévoile une vie faite de voyages, de dangers et de déboires. Jeune militaire, à peine 18 ans, il participe aux dernières années du conflit en Algérie. Aventurier dans l'âme, il vit mal son retour dans le civil. En France, il a l'impression de tourner en rond. Il cherche un métier qui pourrait correspondre à l'appel du grand frisson. Dans les années 50, la société de forage en profondeur Comex recrute des hommes avec une témérité à toute épreuve. Les missions se déroulent dans toutes les mers et océans du monde. Henri Pacchioni n'a peur de rien. En contrepartie de cette vie hors du commun, il a un très bon salaire, il dîne dans les plus chics restaurants, dort dans les plus beaux hôtels. Durant ses temps de repos, il rencontre de nombreuses femmes. C'est un séducteur, mais à un moment donné, il finit par se ranger et chercher à s'installer dans une vie de famille. Un jour, il fait la connaissance d'une certaine Marité, avec qui il se marie, fonde un foyer et a 3 enfants. Mais le ménage ne tient que peu de temps. Sa femme a du mal à supporter ses longues absences de plusieurs mois. Un jour, en revenant de mission, il apprend que Marité a démarré une relation avec un autre homme. Ce nouveau compagnon n'est autre que le meilleur ami d'Henri. L'ancien militaire n'a pas cherché le conflit. Il est parti la tête haute. Soucieux de l'avenir de ses enfants qu'il ne reverra plus, il lègue à Marité une bonne partie de son argent et la maison qui était à son nom. À la signature du divorce, son ex-femme a la garde exclusive de ses enfants. En 1982, à l'âge de 40 ans, il retrouve son ancienne vie de célibataire, se jure de ne plus jamais se mettre en couple. Jusqu'à ce que son intérêt se porte sur la jeune et belle Michèle, avec laquelle il va rester 7 ans. Les policiers apprennent au cours de leurs investigations que la petite Émilie pourrait ne pas être biologiquement la fille de Henri. Michel lui a appris la nouvelle au retour d'une mission. À l'époque, il était déjà bien conscient que la jeune secrétaire, qui avait tout l'avenir devant elle, n'allait pas se contenter d'un homme qui n'était presque jamais là. Mais 2 ans après la naissance d'Émilie, Henri a 44 ans et doit mettre un terme à sa carrière. Il se fracture une jambe lors d'une mission sur une plateforme pétrolière au large du Congo. La blessure est irréversible, l'obligeant à boiter pour le reste de sa vie. De retour à la maison, il peut désormais s'occuper pleinement de sa fille. La situation continue à se dégrader entre Henri et Michel. Ces disputes sont en partie liées à cette nouvelle vie de sédentaire qu'il peine à supporter. Pour s'occuper, il ouvre une petite entreprise de laverie automatique. Les policiers sentent que Henri ne leur dit pas tout. Mais pour l'heure, ils n'ont pas encore assez d'éléments pour l'incriminer dans la disparition de sa femme. L'enquête se poursuit auprès des proches du couple Moriam et Pacchioni. Beaucoup décrivent Henri comme un homme violent et rejettent sur lui la faute de la disparition de sa compagne. L'ancien militaire n'a jamais été accepté dans la famille de Michel. Et pour cause, la différence d'âge, plus de 16 ans, est choquante pour une partie d'entre eux. Selon les proches de la jeune femme, Henri ment sur la disparition de sa compagne. Michel ne serait jamais parti aussi longtemps avec un autre homme. Une voisine de palier finit par livrer un témoignage qui alimente la thèse du meurtre. Elle déclare que dans la nuit du 31 mars au 1er avril, elle a entendu des cris déchirants. 2 mois après les faits, elle est capable de dire le nombre de fois durant lesquelles sa voisine a crié au secours. 4 fois. Après son quatrième cri de détresse, le silence est revenu. Inquiète, elle s'est rendue devant la porte de sa voisine, a toqué plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Quand elle a entendu des pas s'approcher, elle s'est précipitée dans son appartement, s'est enfermée à clé et a observé le couloir depuis le Judas. Elle a vu un homme vêtu de noir, coiffé d'un chapeau, quitter l'appartement de Michel. Elle est incapable de décrire le visage de cet homme. En revanche, elle certifie que cela ne pouvait pas être Henri. Le plausible meurtrier de Michel ne boitait pas lorsqu'il a quitté le couloir. Un témoignage qui arrive bien trop tard, selon les enquêteurs. Pourquoi cette voisine n'a pas immédiatement appelé la police ? Cherche-t-elle à couvrir Henri, pour qui elle aurait pu avoir de la sympathie ?